Et les matins débutent avec le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Un collectif de citoyens doit accompagner la stratégie de vaccination contre le Covid-19, annonce Emmanuel Macron, mais sa composition est encore floue, alors que ce matin, la Haute Autorité de Santé donnera ses recommandations sur les populations à vacciner en priorité. Après ce journal, vous reparlerez d'ailleurs des vaccins dans la question du jour, Guillaume.
Mais absolument, Margot, la course aux vaccins crée-t-elle de nouvelles alliances géopolitiques? Je poserai la question à Antoine Bondaz. Il est chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique.
Quatre policiers sont mis en examen, deux d'entre eux écroués dans l'affaire du passage à tabac du producteur Michel Zecler. La vidéo de son agression diffusée jeudi dernier a suscité une vague d'indignation.
Et puis, comment s'organisent les hôpitaux d'Erevan en Arménie face à l'afflux de blessés après le conflit autour du Haut-Karabakh? Reportage de notre envoyé spécial.
Enfin, nous prendrons des nouvelles de la Maison-Blanche. La transition entre Donald Trump et Joe Biden, président élu des États-Unis, commence lentement. Qui faut-il vacciner en priorité contre le Covid-19? La Haute Autorité de Santé présentera ses recommandations à 9h ce matin. Elle devrait proposer de vacciner d'abord les soignants, tous ceux au contact direct des malades et les populations les plus fragiles. La campagne de vaccination doit commencer à la fin de l'année ou début janvier. Et pour l'accompagner, un conseil citoyen sera créé. C'était depuis le printemps déjà une demande du conseil scientifique Arnaud Rozac.
Emmanuel Macron l'a annoncé, le vaccin ne sera pas obligatoire. Mais l'objectif est clair, le gouvernement veut gagner l'adhésion des Français en les intégrant dans cette politique sanitaire. Robert Cohen est pédiatre infectiologue et coordinateur d'Infovac, une plateforme de conseil sur la question des vaccins. Selon lui, ce conseil citoyen qui va suivre la campagne de vaccination du Covid-19 doit remplir plusieurs critères.
Par définition, un collectif citoyen doit comporter des gens qui ne connaissent rien du tout. Un collectif, c'est comment le citoyen s'approprie des résultats d'études, des résultats de politique, et comment le citoyen de base peut comprendre une politique de vaccination. Ça ne suffit pas de montrer des résultats. Il faut répondre à leurs questions. Si vous voulez, c'est un petit peu le même principe qu'un jury d'assises, hein.
La question du vaccin alimente les peurs, que ce soit avec les lobbies pharmaceutiques ou encore les effets secondaires. Et pour Robert Cohen, ce collectif citoyen doit permettre une totale transparence sur ce sujet, avec des membres tirés au sort de différentes classes d'âge, comme cela s'est déjà produit par le passé.
En 2017, l'obligation vaccinale des petits nourrissons a été le fruit d'une conférence citoyenne qui a regroupé des gens de la société civile, des gens de différentes professions de santé. Et à la fin de la concertation citoyenne, il y a plusieurs enquêtes qui avaient montré que les Français se sentaient mieux informés. Ça aboutit à une augmentation de la confiance.
Reste à voir si cela va fonctionner cette fois-ci. Selon un sondage Odoxa publié début novembre, un Français sur deux affirme ne pas vouloir se faire vacciner contre le Covid-19.
198 malades du Covid-19 sont morts dans les hôpitaux français ces dernières 24 heures. C'est encore moins que samedi. Les indicateurs sont à la baisse. Au total, plus de 2 millions de Français ont attrapé ce coronavirus et les séquelles sont encore difficilement mesurables. L'hôpital de la Porte Verte à Versailles rééduque les patients Covid, dont certains sont tombés malades pendant la première vague. Tous mériteraient d'être mieux accompagnés, même ceux qui n'ont fait que des formes légères, explique le docteur Isabelle Montaïroc. Elle dirige le service rééducation fonctionnelle.
Alors moi, je trouve que c'est effectivement une pathologie qui est responsable d'une fatigabilité majeure et que même les gens qui font des formes bénignes devraient absolument avoir des programmes de réentraînement doux et progressif à l'effort. C'est dur dans ces périodes de confinement parce que les salles de sport sont fermées, parce que c'est pas toujours facile de faire du sport soi-même, mais il existe des gens qui, sans faire de réanimation, sans faire de complications graves, sont gênés encore aujourd'hui, 3 à 6 mois après leur épisode de Covid, par des essoufflements à l'effort, par une fatigue un peu anormale. Et je crois qu'on garde des gènes pendant très très longtemps. Et on nous dit que c'est une grippette, c'est quand même pas une grippette classique. Donc c'est vrai, pour avoir discuté avec des gens dans mon entourage, que beaucoup de gens s'interrogent sur l'intérêt d'en parler autant, etc. Finalement, il y a très peu de morts. Finalement, est-ce que ça vaut le coup de plomber l'économie avec ces pathologies-là? Mais même chez les gens jeunes, des gens de 45 ans, sportifs, on a des patients qui ont mis plus de 6 mois à s'en remettre.
Le docteur Isabelle Monteil-Roch de l'hôpital de la Porte Verte à Versailles, où s'est rendue Tara Schlegel. La rééducation post-Covid, c'est le reportage de la rédaction. Rendez-vous à 7h24. L'audition du ministre de l'Intérieur est très attendue. Gérald Darmanin sera entendu ce soir vers 18h par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Il devra s'expliquer sur les conditions dans lesquelles les forces de l'ordre ont eu recours à la force depuis la manifestation du 17 novembre, depuis 10 jours environ, et l'adoption en première lecture de la proposition de loi sur la sécurité globale. Les 4 policiers parisiens mis en cause pour le tabassage de Michel Zecler, producteur de musique, viennent d'être mis en examen. 2 d'entre eux ont été placés en détention provisoire. La vidéo des faits, diffusée jeudi dernier, a été vue des millions de fois et a beaucoup choqué. 3 des policiers sont mis en examen pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique et faux en écriture. Le 4e arrivé plus tard et soupçonné d'avoir lancé une grenade lacrymogène dans le local du producteur. Hier, le procureur de Paris a donné plus d'éléments sur cette enquête, Corinne Audouin.
Ce sont 3 policiers très bien notés, a précisé le procureur de Paris, un brigadier de 44 ans et 2 gardiens de la paix de 23 et 31 ans. En garde à vue, ils ont affirmé avoir voulu contrôler Michel Zecler car il ne portait pas de masque et dégageait une forte odeur de stupéfiant. Sur PV, ils avaient dit avoir été attirés dans son local et qu'il leur aurait porté des coups. Un récit contredit par la vidéo où on les voit frapper le producteur à coups de poing, de pied et de matraque. D'où leur mise en examen pour faux en écriture publique. Les policiers nient avoir proféré des injures racistes confirmées par un des jeunes présents dans le studio. Les policiers disent avoir été pris de panique devant l'impossibilité de faire sortir l'homme de ce sas exigu. Ils ont reconnu avoir porté des coups non justifiés. Michel Zecler, blessé notamment au cuir chevelu, a été de nouveau examiné pour évaluer son état de santé. 4 des jeunes présents dans le studio ont également porté plainte pour des violences au moment de leur interpellation.
Après le faux départ, ce devrait être le vrai. Le procès de Nicolas Sarkozy doit commencer en début d'après-midi aujourd'hui. L'ancien président de la République est jugé pour corruption dans l'affaire dite des écoutes, aux côtés de son avocat Thierry Herzog et de l'ancien magistrat Gilbert Azibert. C'est l'avocat de ce dernier qui avait demandé la semaine dernière un renvoi pour raison médicale. Demande rejetée.
7h07 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre. L'accord du 9 novembre a mis fin aux hostilités entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, mais les traces du conflit sont encore bien visibles.
Les combats pour la province du Haut-Karabakh ont fait des milliers de blessés. Il faut maintenant soigner dans les hôpitaux d'Erevan. Les soignants sont très occupés en ce moment, comme l'a constaté notre envoyé spécial Eric Biegala.
Le nombre total de victimes de guerre est encore un secret d'État en Arménie. À l'hôpital Erevouni, le plus important du pays, on ne donne pas de chiffres. Mais le docteur Georges Abkarian, médecin réanimateur français venu prêter main forte, lâche quelques détails édifiants.
Il y a des soldats qui sont venus avec des blessures qui avaient le Covid. Donc on s'est battu aussi contre le Covid et les blessures.
L'heure n'est plus à la chirurgie d'urgence, mais à la réhabilitation des blessés.
Il y a beaucoup de séquelles encore. On continue à les opérer, donc on essaye de les réopérer pour une bonne rééducation après.
Et ce n'est pas une mince affaire. Garo, 27 ans, a été victime d'un tir de drone turc. Il est bandé de la tête aux pieds et peut à peine relever la tête pour parler.
Nous étions assis dans le camion, on l'a pas entendu venir. Simplement mes yeux qui ont vu des flammes et puis la chaleur. Les 2 mains qui ont été brûlées, la tête, aussi la grande partie du corps aussi a été touchée.
Pour le docteur Karim Babayan, chirurgien en chef du centre des grands brûlés d'Erevan, ce sont probablement des bombes incendiaires qui ont causé ces dégâts.
On suppose qu'on a utilisé aussi des armes chimiques.
Par armes chimiques, il faut comprendre bombes au phosphore, avec à la clé des brûlures plus difficiles à soigner.
Le développement de la maladie est atypique. Le processus de rétablissement est plus lent. Et on a vu les blessures sous la lumière au phosphore.
La France vient d'acheminer 30 tonnes d'aide médicale et quelques médecins pour épauler les équipes arméniennes. Pas sûr qu'elles puissent efficacement aider les victimes des bombes au phosphore.
Eric Biegala. Au moins 110 civils ont été tués samedi au Nigeria. Ils travaillaient dans leurs champs quand le massacre a eu lieu. Le bilan a été revu à la hausse par les Nations Unies. C'est l'attaque la plus meurtrière de l'année menée dans le nord-est du pays, en proie à une insurrection djihadiste depuis plus de 10 ans. L'équipe de communication de Joe Biden sera entièrement féminine. Le président élu des États-Unis l'a annoncé hier, alors que nous sommes à une cinquantaine de jours de son entrée à la Maison-Blanche. Donald Trump devra laisser fin janvier le bureau ovale à son rival démocrate. La transition a mis beaucoup de temps à démarrer, mais ça y est, elle avance doucement, Sébastien Paour.
Joe Biden et Kamala Harris doivent assister aujourd'hui à leur premier briefing présidentiel confidentiel, un résumé quotidien des principales menaces à la sécurité nationale partout dans le monde. Il fallait d'abord trouver une pièce sécurisée pour que ce rendez-vous puisse se tenir. C'est donc une nouvelle étape depuis que l'administration des services généraux a officiellement lancé la transition la semaine dernière. Joe Biden explique sur NBC ce que ce feu vert a changé. Immédiatement, nous avons reçu un message du service de la sécurité nationale, de tous les services, et ils travaillent déjà sur ma capacité à obtenir un rapport quotidien du président. Nous sommes déjà en train de travailler, de rencontrer l'équipe Covid à la Maison-Blanche. Donc oui, ça a déjà commencé. Pour autant, toujours pas de coup de fil de Trump. Je crois que son chef de cabinet et mon chef de cabinet se sont parlé. Mais non, je n'ai pas eu le président Trump. Toujours pas non plus de visite traditionnelle de la Maison-Blanche, même si Joe Biden y a déjà passé 8 ans comme vice-président. Mais il assure qu'il ira si le président l'invite. Et il conclut, la transition commence lentement, mais elle a commencé.
Joe Biden, 78 ans, qui s'est fracturé le pied droit en jouant avec son chien. Le président élu portera une botte orthopédique pendant plusieurs semaines. Les entreprises suisses auraient pu être obligées de respecter les droits de l'homme et de l'environnement partout sur la planète où elles font des affaires. L'initiative a été soumise au vote hier, mais n'a pas été adoptée. Il fallait une majorité de votants et de cantons. Camille Magnard expliquera tout dans sa revue de presse internationale à 7h35. En France, les nuages ce matin laisseront place au soleil cet après-midi, sauf sur la façade nord-ouest où le temps restera gris. Météo France prévoit au maximum 1 degré à Strasbourg, 4 à Lyon, 10 à Brest et 14 à Nice, Guillaume.
Merci Margot Delpierre. Dans quelques instants, la course au vaccin crée-t-elle de nouvelles alliances géopolitiques ?